enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Parle-lui, dis-lui, Seigneur, s'il te plaît. Ah, j'aurais pu être ailleurs, je ne suis pas venu. Je viens pour être un spectateur, je suis venu pour être un acteur de ma destinée. J'ai besoin que tu me parles. Je veux te rencontrer, te toucher, être touché par toi, être transformé par toi. Alors je t'en supplie, viens, Seigneur. Inonde, sature, déborde, envahis, possède le vase que je suis. Fais-le, je te prie, je t'en supplie. Ah, I've got to be changed, je dois être changé. Ah, Seigneur, la création attend ma manifestation. Je voudrais devenir cette personne que tu m'as appelé à être, Seigneur. Tu m'as dit que c'est le symbole de la réussite. Réussir à devenir ce que j'aurais dû être. Que le monde, les systèmes, les préjugés, les pensées des gens, Seigneur, le diable et toutes les conspirations autour ont voulu empêcher de manifester. Aide-moi, Seigneur. Il y a du travail que tu dois faire à l'intérieur de moi. Des choses que tu dois consumer par le feu de ta présence. Seigneur, il y a des herbes que tu dois déraciner et la vie que tu dois planter, Seigneur. Des mentalités que tu dois renouveler, Père. Des cœurs que tu dois circoncire. Des âmes et des esprits que tu dois consacrer. Fais-le, je t'en supplie. Fais-le en chacun de nous. Ah, si nous sommes venus là, Seigneur, c'est parce que assurément nous attendons quelque chose. Nous en avons assez d'être la photocopie de quelqu'un d'autre, Père. Nous voulons être ce que tu nous as appelé à être et à entrer dans le mandat que nous avons reçu de toi avant la création du monde. Père, aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous, nous te supplions. Personne ne peut y arriver par sa propre volonté. Que ma coupe déboule, que nos cœurs soient inondés. Seigneur, viens transformer, transformer, viens transformer. Nos vies, nos cœurs, transforme nos destinées, réécris l'histoire, Seigneur. Aide-nous. Ah, nous disons à l'aide, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Change, transforme, métamorphose. Seigneur, merci. Père, nous nous attendons à toi. Notre capacité nous vient de toi. Jamais nous n'avons dit que nous étions capables. Seigneur, nous te supplions. Ton peuple est venu assembler en ton nom, se rassembler pour toi, Seigneur. Nous ne sommes que des instruments, que des vases, Seigneur. Je te supplie de laisser couler ta vie et ton onction, ton inspiration et ta puissance. Tu as dit dans ta parole que tu envoyas ta parole et que ta parole te guérit. Ta parole fait échapper de la fosse. Et tu ne fais rien sans avoir d'abord annoncé à l'avance. Et alors que tu annonces à l'avance, que tu nous emmènes à être les personnes que nous devrions être. Merci de ce que, alors que tu l'enseignes par ta parole, tu le manifesteras dans la vie de chaque personne au son de ma voix. Et nous te rendons grâce de ce que c'est à toi que nous rendrons le crédit. C'est à toi que nous rendrons honneur et louange, gloire et puissance. Et c'est de toi que nous témoignerons dans l'assemblée des fidèles. Partout où tu nous enverras, c'est de toi que nous parlerons. Et nous dirons, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à l'Éternel. J'étais accro. J'étais dépendant. Pour certains de la fornication. Pour d'autres de l'adultère. Pour d'autres de la masturbation. Quelqu'un dira, j'étais dépendant de la cigarette ou de la drogue. Quelqu'un nous dira, j'étais retenu, prisonnier, prisonnière de l'amertume, du manque de pardon. Mais du fond de la force, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a entendu. Et il a eu compassion de moi. Et il m'a secouru. Parce qu'il a vu que j'étais sincère. Je me sentais lié. Mais il a envoyé sa parole. Et il a brisé les chaînes qui me retenaient dans la tombe de mon passé. Et il m'a propulsé comme une flèche vers ma destinée. Et il a fait de moi la personne qu'il m'a appelé à être. Non, ce n'est pas fini. Mais je suis reconnaissant. Parce que je ne suis plus là où j'étais hier. Parce que assurément, en regardant en arrière, je peux reconnaître et rendre témoignage de ce que l'Éternel a fait de grandes choses. Emmène-nous de gloire en gloire par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Help us, oh God. Peut-on encourager l'expression Impact pour leur travail formidable, pour leur consécration, leur dévotion. Ils arrivent avant vous, ils repartent après vous. Et il faut vraiment reconnaître, bénir Dieu pour toutes ces personnes que vous voyez debout même, qui ne sont pas ici sur le pupitre, mais qui sont debout dans la salle, en train de servir. Merci et que Dieu se souvienne de vous. La Bible dit que l'Éternel n'est pas injuste pour oublier. Il se souvienne de chacun d'entre nous. Quelqu'un dit Amen.
Amen.
Dis à ton voisin, tu dois devenir la personne que Dieu t'appelle à être. Et voilà, nous sommes dans le deuxième enseignement. Je vous ai dit que cet enseignement va durer plusieurs mois. Il va durer au moins trois mois. Et vraiment, j'ai la conviction que chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il envoie d'abord sa parole. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, Dieu envoie toujours la parole avant de manifester ce qu'il a dit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Et je suis convaincu que alors que Dieu envoie cette parole, il n'envoie pas pour nous bichonner, il n'envoie pas pour nous distraire. Il envoie véritablement pour nous transformer et pour nous amener là où nous devons véritablement être, c'est-à-dire à manifester la personne que nous devons vraiment être. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un comme moi. Moi, depuis longtemps, j'ai décidé d'arrêter d'être la photocopie des gens, même si ils avaient l'air bien. J'ai décidé d'arrêter d'être la photocopie de quelqu'un. J'ai décidé d'être la personne que Dieu m'a appelé à être. Et je bénis Dieu parce que je reconnais que c'est un voyage. Ce n'est pas une destination finale. C'est un voyage. Mais il y a des phases de ce voyage où je t'assure que tu te regardes dans le miroir et tu bénis Dieu pour ce que tu as compris, tu bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire de toi et tu bénis Dieu et tu dis, Seigneur, merci, ça en valait la peine. Quelqu'un dit Amen. Et je prie vraiment, je suis convaincu donc que alors que Dieu nous lance cette parole, je suis convaincu que c'est parce que Dieu a entendu le cri de la plupart d'entre nous. En réalité, il y a des gens qui crient pour le mariage, qui crient pour tout ça, qui crient pour le travail, qui crient pour différents types de choses. Mais je suis convaincu que le premier cri, en réalité, qui est entendu à l'intérieur de chacun d'entre nous, c'est Seigneur, je veux juste être moi. Je veux juste être moi, pleinement épanoui, pleinement satisfait. Pas d'argent, argent, pas de maison, mais je veux juste être capable de me regarder dans la glace et d'être épanoui parce que je sais que je suis comme le poisson dans l'eau, que je suis en train de te refléter et de resplendir ton image et de marcher selon ta ressemblance. Je suis en train d'opérer dans la dimension que tu m'as appelé à opérer. Seigneur, quelle grâce! Quelle grâce! Alors, nous avons dit plusieurs choses la fois dernière. Nous avons dit que c'est une expression d'adoration. Nous avons dit que c'est la clé de la réussite. Nous avons dit que c'est de cette personne que Dieu t'a appelé à être, que le monde, la création tout entière attend la manifestation. Et alors que nous allons passer du temps sur cette série, vous allez vous rendre compte que je vais insister sur deux choses. Je vais insister sur le être et sur le faire. Parce que tu dois être avant de faire et tu dois faire afin d'avoir. Avant d'avoir. Tu dois être avant de faire. Il n'y a pas que le être. Le être est important, il est déterminant. Mais le être ne suffit pas. Je suis l'image de Dieu, je suis la ressemblance de Dieu et je dois me souvenir aussi qu'il m'a appelé à faire, dis avec moi faire. Il m'a appelé à faire, la Bible dit que je suis son ouvrage, Ephésiens 2 verset 10. Ayant été prédestiné, créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Donc il y a des choses, il y a une contribution que ma vie doit apporter sur la terre et qui me donnera un sentiment d'utilité, qui me donnera un sentiment d'accomplissement, un sentiment de satisfaction intense. Je dois être la personne que Dieu m'appelle à être et parallèlement à ça, je dois faire les choses que Dieu m'appelle à faire et tout au long de cette série, c'est ce que nous allons voir et je te garantis que à l'issue et même avant la fin de cette série, tu ne peux pas être la même personne. Oh Seigneur. Ok, je vous pardonne, je répète. Tu ne peux pas être la même personne.
Amen.
Mais quand on parle, tu ne sais pas qu'il y a l'ange de l'Éternel en train de passer avec des fleurs. Ah oh, mais c'est... Quand ta bouche est fermée pour ne pas dire Amen, là, l'ange t'a loupé. Voilà, là tu as raison de dire aïe. Pardon, excusez-moi. Dis à ton voisin, tu dois devenir cette personne. De toute manière, non, mais toi-même tu en as assez de toi. Tu n'es pas content d'être ce que tu es. Et tu le sais, et tu le reconnais. Voilà pourquoi cet enseignement est combien important. Tu dois être cette personne. Tu dois pouvoir te regarder dans la glace, mari ou pas mari, travail ou pas travail, et tu tapes sur le menton, tu dis yes.
Ah, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et quand quelqu'un passe à côté, tu dis gros nez, grosse tête, machin, tu dis yes, t'as pas encore. Deux fois. Et même quand tu as échoué, tu dis yes. Est-ce que tu reconnais, tu comprends que tu n'es pas ce que tu fais? Quelqu'un dit amen.
Amen.
Je peux me planter, mais ça arrive de se planter. Tout le monde se plante. Il n'y a personne qui réussit du premier coup. Enfin, si, il y en a qui réussissent du premier coup. Mais tôt ou tard, la vie va t'enseigner. Que tu sois croyant ou pas croyant, tôt ou tard, tu te planteras. Mais l'adversité est un enseignement. Quelqu'un dit amen.
Amen.
L'épreuve, les échecs sont des enseignements. Ce n'est pas une tragédie. Si tu as échoué, t'inquiète pas. Tu es obligé de réussir. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est vraiment pas compliqué. Si tu es sous notre autorité pastorale et apostolique, tu ne peux pas échouer. Parce que là où je vais, tu vas. Je te garantis que je ne vais pas dans la destination de l'échec dans la vie. Non, mon ami, je vais de gloire en gloire. Et là où je vais, tu vas. Nous allons tous ensemble. Je ne vais pas tout seul, sinon je vais me retrouver. Il n'y a personne ici. Non, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Dis amen.
Amen.
Nous devons y arriver. Et nous allons y arriver. Et je sais que lorsque Dieu inspire une parole, c'est pour après la manifester dans la vie des gens. Et beaucoup d'entre nous, nous allons être délivrés grave. Tu n'as même pas idée de ce que tu vas entendre. Mais tu vas être délivré. Dis amen.
Amen.
Une des raisons pour laquelle je suis épanoui, c'est parce que je fonctionne, comme disait le pasteur la semaine dernière, dans mon couloir. Je suis heureux. Tu me dis, un tel fait telle chose, un tel est comme ça. Je dis, gloire à Dieu. Oh, mais là, si je mets ma casquette à moi, ouh, casquette, Ivan Castanou. Je te garantis qu'il y a des choses que je fais que personne ne peut faire.
Amen.
Oh, je suis heureux. Je suis heureux de venir te t'adorer, élever ton nom et louer. Tu sais, des fois, quand tu vois des gens à l'église, tu sais, c'est pas qu'il a une bonne nouvelle, c'est juste qu'il est content d'être dans ses chaussures.
Amen.
Il est content d'être lui. Parce que hier, il fut un temps où il n'était pas lui. Il était quelqu'un d'autre. Il était mal à l'aise, il était complexé. Dès que quelqu'un réussissait, il se sentait menacé. Baisse la tête. Dès que quelqu'un réussissait, dès que la sœur dit, je me marie. Oh! Non, mais ça c'est toi. Peut-être pas toi, ta voisine ou ton voisin hier. Mais Dieu merci, il a changé. Maintenant, elle atteint la dimension où elle se réjouit. Il se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Parce que tu sais une chose, quand quelqu'un a une bonne nouvelle, tu dis, mon ami, Dieu est un Dieu de ses hommes, je me réjouis avec toi. Alléluia, on parle de toi aujourd'hui. Je ne suis pas frustré parce que je sais que mon tour viendra. Il faut juste que j'enfile le costume de ma destinée et que je devienne la personne que Dieu m'a appelé à être. Parce que tant que je ne le suis pas, je te dis, la création s'en fout. Donc quand les gens te méprisent là, toi, ils t'envoient des emails, disent, moi, je sais au moins que je suis sur le processus. Parce que j'ai trop de sollicitations. J'ai trop d'emails. Donc, les gens m'écrivent des emails pour me dire merci, vraiment, je vais vous rencontrer. Venez en Guyane, venez au Pôle Nord, venez en Alaska. Venez. Et je me dis, ils doivent assurément avoir discerné, découvert quelque chose. Oh, je suis heureux. Vous savez, la plus grande joie qu'on puisse éprouver, vous savez, franchement, je crois que c'est de se rendre compte que sa vie est utile.
Amen.
Et que ta vie est en train de laisser une marque. Et tu es en train d'être un instrument utilisé par Dieu pour emmener les autres à sortir de la tombe, de la médiocrité, de l'échec, de l'apitoiement et à être propulsé comme des flèches vers leur destinée. Je crois vraiment qu'il n'y a pas de plus grande satisfaction que de pouvoir te tenir devant le trône de Dieu et de savoir qu'à travers toi, beaucoup de gens ont été transformés. Ce n'est pas une question d'argent, c'est juste une question de j'ai été utile. Christ en moi a réussi à opérer. Ce n'est pas moi, c'est Christ en moi qui a réussi à opérer. Ah, je suis dans la joie parce que je performe dans le couloir de ma destinée. Ah. Aujourd'hui, je vais voir avec vous les 6 raisons majeures pour lesquelles les gens échouent dans la vie. Parce que lorsque je te parle de devenir la personne que tu devrais être, je suis en train de te parler de réussir ta vie. Je suis en train de te parler de développer le potentiel que Dieu a enfoui. Je suis en train de te parler de devenir toi ou je suis en train de te parler de devenir le leader que Dieu t'a appelé à être. Je sais que lorsque je dis leader, tu ne dis pas amen parce que tu crois que certains sont prévus dans la vie pour être des leaders et d'autres sont programmés par le diable, pas par Dieu, certainement, je te garantis, à être des suiveurs. Mais vous allez voir que dans les semaines qui suivront, Dieu va nous délivrer de cette mentalité. Parce que j'ai compris que tout le monde est appelé par Dieu à être un leader.
Amen.
Et j'ai compris aussi qu'un leader, ce n'est pas quelqu'un qui conduit les autres. Non, parce que tout le monde parle, ouais, leader, non, ce n'est pas quelqu'un qui conduit les autres. C'est quelqu'un qui exerce l'emprise, la maîtrise dans un domaine déterminé où Dieu l'a établi.
Amen.
Dieu n'a pas donné la domination à l'homme, il n'a pas donné la domination, il n'a pas donné à l'homme la domination sur les autres hommes. Il a donné à l'homme la domination sur la création. Quelqu'un dit amen. Et j'ai compris pourquoi la plupart d'entre nous, nous passons notre temps, dès qu'on finit les études, à chercher un emploi. J'ai compris pourquoi. Ça m'a fait du bien. Et je me suis dit, j'ai trouvé le véritable. J'ai compris pourquoi la plupart d'entre nous sommes influencés par une philosophie qui ne vient pas de la parole de Dieu. Je vais vous démontrer ça. Pas aujourd'hui. Non, dis à toi, accroche-toi seulement. Je te dis, à l'issue de cet enseignement, il y a des entreprises qui vont sortir de toi. Non, je sais, ne dis pas amen, parce que toi, tu cherches un job. Il n'y a pas de problème. Mais je te dis que tu seras délivré du job mentality. Et tu vas commencer à faire les œuvres que Dieu t'a appelé à faire. Pour tout le monde, ce n'est pas une entreprise. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. Mais je te garantis que tu vas arrêter de faire des choses. Parce que je vous ai dit, il y a le être et il y a le faire. Arrêter d'aller au boulet tous les matins, boulet au pied. Dès qu'on dit boulot, Seigneur, sauve-moi de cet employeur. Il y a des voisins, attends seulement un peu. Les six raisons, il y en a plusieurs, mais là, il y a les six raisons majeures, principales. Pourquoi les gens échouent dans la vie? On n'échoue pas par hasard, on ne réussit pas par hasard. Quelqu'un dit amen. Et il y a une psychologie de l'échec. C'est-à-dire, il y a une formule de l'échec. Il y a des formules mathématiquement spirituelles de l'échec. En les appliquant, je sais, sans avoir jeûné pendant 40 jours, je sais que tu vas échouer. Tu me montes, tu montes, tu descends, tu dis ce que tu veux, je sais que tu échoues. Forcément, parce qu'il y a des principes qu'on ne viole pas. Quelqu'un dit amen. Est-ce que vous êtes prêts? La première raison pour laquelle les gens échouent dans la vie, la première raison pour laquelle les gens ne peuvent pas devenir, n'arrivent pas à devenir, ces personnes de destinée que Dieu les a appelées à être, ces hommes et ces femmes d'impact, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Et ils ne connaissent pas les droits et les privilèges qui sont attachés à leur identité. J'ai raconté au premier culte une histoire, je vous en donne une autre, mais c'est la même. Il y a un homme, on raconte l'histoire d'un homme qui voyageait en classe affaires. C'est une compagnie aérienne prestigieuse. Je ne sais pas, la plupart de vous, vous n'avez jamais voyagé en classe affaires peut-être, mais quelqu'un peut-être a déjà voyagé en classe affaires. Et je te garantis que ce n'est pas les classes économiques. Hein. C'est pas pareil. Moi, j'ai voyagé récemment en classe affaires, mais en fait, j'avais payé ma classe économique, comme d'habitude un bon pasteur, en classe économique. Et puis, Dieu merci, Air France m'a surclassé et m'a mis en classe affaires. C'était une visitation divine, alléluia. Dieu voulait me faire goûter les bonnes choses. Je dis, Seigneur, tu sais, mine de rien, c'est quand même mieux de voyager en classe affaires que classe économique. Rien que pour le dos, c'est plus agréable, je te garantis. Parce qu'en classe affaires, tu peux t'allonger. En classe économique, tu es debout. Et ton dos fait mal, mais tu dois supporter. Et quand tu dis, je veux rajouter, on te dit, il n'y en a plus. Mais ce n'est pas mauvais. Moi, je voyage en classe économique, rassurez-vous. Je ne suis pas quelqu'un qui méprise tout ça. Mais bon, le jour où j'ai le choix, si on me laisse le choix, je vais changer la classe affaires, évidemment. Mais bon, la plupart du temps, on ne me laisse pas le choix pour l'instant. Mais donc, c'est l'histoire d'un homme qui voyageait en classe affaires. Et en classe affaires, il avait réussi, il avait juste de quoi payer son billet. Il a payé son billet et il s'est baladé. Il a pris avec lui un paquet de biscuits pour les 10 heures de vol qu'il avait. Et pendant tout le trajet, l'hôtesse venait à chaque fois, à chaque reprise. L'hôtesse vient avec un plateau, parce qu'en classe affaires, on vous propose d'abord une coupe de champagne. Bon, moi, je ne bois pas, mais on vous propose une coupe de champagne. Et puis, lui, il dit non, merci. On lui emmène des amuse-bouches, non merci. On lui emmène un plat, non merci. Et pendant tout ce temps, il passait son temps juste à grignoter biscuit après biscuit pendant les 10 heures de trajet qu'il avait. Il mangeait un biscuit toutes les quarts d'heure, je crois. Il mangeait un biscuit. Et bref, il a fait le trajet comme ça. Et à la fin, à l'arrivée à destination, l'hôtesse lui demande, en sortant de l'avion, l'hôtesse lui demande, mais monsieur, pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu, pourquoi est-ce que vous avez systématiquement refusé tout ce qu'on vous proposait dans l'avion? Il dit, ah madame, je n'avais pas l'argent pour payer. Elle dit, mais monsieur, c'était compris dans le prix. Bon sang. Et voyez-vous, la plupart des chrétiens marchent dans la vie à un niveau de médiocrité, à un niveau à un niveau où en fait, ils sous-estiment totalement. Ils n'opèrent pas dans le plein potentiel que Dieu a préparé pour eux. Parce que la réalité, c'est que avant de créer Adam, nous avons vu la semaine dernière avec le pasteur José qui nous l'a rappelé, Dieu avait tout créé. Dieu a mis toutes les provisions. Et même nous, homme, être humain, lorsque un enfant vient au monde, généralement avant que l'enfant ne vienne au monde, on a tout préparé. Et si nous méchants comme nous hommes, nous sommes dit la parole, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison? Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dieu n'est jamais hystérique. Dieu a tout prévu. Il y a un héritage qui m'est réservé, qui t'est réservé en Jésus-Christ. Il y a un package auquel j'ai droit. Et avant la chute, Adam avait tout. Et Dieu avait tout préparé. Si Adam pêche, Dieu avait déjà la solution. La Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Donc Dieu avait déjà sacrifié l'agneau avant même que le péché n'arrive. Avant qu'il n'ait faim, Dieu avait déjà mis les provisions. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Genèse chapitre 1, c'est le récit de la création. Genèse chapitre 2, c'est le récit de la formation de la terre et de l'homme. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, vous voyez que la Bible dit Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme, il créa l'image de Dieu. Et tout ce que nous avons vu dans Genèse chapitre 1, Dieu l'a créé, il l'a appelé à l'existence. Or, lorsqu'on va dans Genèse chapitre 2, on se rend compte que tout ce que Dieu a appelé à l'existence n'est pas encore manifesté. Et dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla en lui un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Pourtant, l'homme avait déjà été créé. Il avait été créé, c'est-à-dire ça c'est l'esprit, mais il n'avait pas encore été formé. C'est-à-dire ça c'est le corps. Et après, il a formé le corps, il a mis l'humanité, littéralement Adam qui veut dire humanité. Il a mis l'humanité dans un corps et il a soufflé dans ce corps. Et la Bible dit que l'homme est devenu une espèce vivante. Et tout ce que Dieu disait à cet homme-là, Dieu le disait à l'humanité. Et lorsque cet homme péchait, l'humanité péchait parce que tous étions en lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Amen.
Dieu a tout préparé. Maintenant, il faut comprendre que lorsque je viens à Jésus-Christ, si tu n'es pas à Jésus-Christ, peut-être que ça ne te concerne pas. Tout à l'heure, fais la prière du salut avec moi, repends-toi immédiatement. Mais si tu es venu au Seigneur, tu as été sauvé. Et les gens croient encore beaucoup. J'ai fait le test à l'école biblique. Beaucoup de gens croient que être sauvé, ça veut dire aller au ciel. Ils croient que la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais qu'il ait la vie éternelle. Et beaucoup de gens croient que la vie éternelle, c'est avoir la vie après la mort. Mais non, mon ami, la vie éternelle, c'est pas ça. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est tout ce que Dieu est. C'est tout ce que Dieu est. C'est l'essence même de Dieu. Et il vient habiter maintenant. J'ai besoin de la vie éternelle sur la terre. Parce que c'est sur la terre que la vie éternelle dissout les maladies. C'est sur la terre que la vie éternelle brise les jougs. C'est la vie de Dieu qui contient la puissance, qui contient la gloire. C'est cette vie qui brise les jougs, qui ôte les fardeaux, qui détruit les chaînes, qui transforme les mentalités. C'est cette vie qui me rend libre, qui me rend capable d'opérer, de marcher sur les serpents, les scorpions. Toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra me nuire. C'est la vie de Dieu qui fait ça. S'il n'y a pas la vie de Dieu, il n'y a pas la capacité à opérer comme Christ sur la terre. Mais c'est parce qu'il y a la vie de Dieu que Christ en moi opère par sa vie. Et il fait de moi quelqu'un d'extraordinaire. Un Christ sur terre, je vous l'ai dit, ça veut dire un Dieu sur terre. Je te délivre de l'incrédulité au nom de Jésus. Que les yeux de ton cœur soient illuminés. Et que ta mentalité de moustique soit quitte au nom de Jésus. Même sauterelle, c'est trop gros. Moustique. Il y a ton voisin, connais ton identité. Tu as une identité. Et les semaines prochaines, quand je veux parler de l'identité, vous allez voir, beaucoup de gens ne connaissent pas leur identité. En Turquie, qui es-tu? Je suis Ivan Castanou. Tu es d'où? Je suis du Congo. Je suis de la Guadeloupe. Je suis de la Martinique. Tu ne connais rien. Tu es amnésique. Tu as perdu ton identité. Je te démontrerai que tu n'as rien compris. Ne dis pas amen, mais tu n'as rien compris. Ce n'est pas ça ton identité. Bon, je dis amen. Quelqu'un dit amen, voilà. La plupart des gens subissent la vie. Ils ne savent pas qu'ils ont la possibilité de tirer le meilleur de la vie. Maintenant, c'est possible, c'est mon partage. Par le salut, englobe tout ce que Dieu a mis en œuvre pour remettre Adam dans sa position d'où il est tombé. Il n'est pas tombé du ciel. Il était sur la terre et il est tombé de la position d'autorité et de souveraineté que Dieu lui avait confiée. Le salut englobe tout. Et si tu fais l'école biblique, tu apprendras ce qu'il y a dans le salut. Tu apprendras la préscience, la prédestination. Tu apprendras l'élection, la repentance, la régénération, l'adoption, la justification, la sanctification, la glorification. Tu vois? Tu auras beaucoup de choses. Soit on ne dit pas ça le dimanche à l'église. Ok, je passe dessus. Dis quand même à ton voisin, connais ton identité. Tu dois connaître ton identité. C'est l'essence de la vie, c'est la base de la vie. Si tu ne... Tout ce que tu fais dépend toujours de ce que tu crois être. La perception, tu es qui? Qui es-tu? Tout part de là. Ce que tu mets après, je suis là. C'est ça qui détermine ta vie. C'est ça qui détermine comment tu t'habilles, comment tu te comportes, comment tu parles. Tout part de là. Et la plupart des gens disent, je suis sauvé, je suis enfant de Dieu. Mais la réalité prouve qu'on n'a rien compris. Donc la plupart des gens échouent d'abord parce qu'ils ne savent même pas qui ils sont. Et quand tu ne sais pas qui tu es, je te garantis que quelqu'un d'autre te dira qui tu es. Et tu vas le croire. Amen. La deuxième raison pour laquelle les gens échouent. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'identité. Pour l'instant, je vous explique pourquoi on échoue. La deuxième raison, c'est l'absence de vision ou le flou de la vision. C'est ce que j'appelle les yeux spirituels en mauvais état. Certains yeux spirituels sont crevés. D'autres yeux spirituels sont myopes. C'est-à-dire, ils voient flou. Quand on voit une personne, on voit ça en même temps. L'absence de vision ou la vision en mauvais état. Quand tu n'as pas de vision, tu n'as pas de destination. As-tu une vision claire de ce que tu dois être? Nous sommes en train de parler de devenir la personne que Dieu t'appelle à être. As-tu, quelle image, quelle vision as-tu de toi? Cette vision est-elle claire? Quelle vision as-tu de ton futur? Quelle vision est-ce que tu poursuis? Est-ce que c'est celle du Créateur ou est-ce que c'est celle de la créature? Quelle image mentale as-tu de toi-même? Est-ce que tu as de toi l'image que Dieu a de toi? Ou tu as de toi l'image que les profs, les parents, les amis, les gens qui ne t'aimaient pas ont dit que tu étais? Quelle est l'image que tu as de toi? Parce que la réalité, c'est que c'est l'image mentale que tu as de toi. Lorsque tu fermes les yeux, c'est cette image qui va devenir réalité. Si tu ne fais rien pour arrêter ça, c'est cette image qui va devenir réalité. Que vois-tu? Les yeux regardent. Le cœur voit, les yeux ne voient pas, les yeux regardent. La vue est une fonction du cœur. Que vois-tu? Quand je parle du cœur, je parle de l'esprit. Que vois-tu? Est-ce que tu te vois saint, pur, intègre? Lorsque tu te vois, lorsque tu fermes les yeux, est-ce que tu imagines quelqu'un de fidèle? Est-ce que tu t'imagines toi, quelqu'un d'épanoui, brillant comme le soleil? Un créateur, un homme, une femme excellent. Est-ce que tu t'imagines toi couvert de gloire, d'éclat et de magnificence? Est-ce que tu t'imagines, est-ce que tu te vois là quand tu fermes les yeux? Est-ce que tu te vois doux, patient, sage, diligent, discipliné, excellent, productif? Est-ce que tu te vois, est-ce que tu vois cette scène où toi tu es marié avec des enfants qui sont bénis, propulsés comme des flèches vers leur destinée? Est-ce que tu te vois vous tous en train de vous prosterner, d'adorer Dieu? Est-ce que tu te vois en train de laisser un héritage aux enfants de tes enfants? Est-ce que tu le vois? Parce que la réalité, mon frère, c'est que si tu ne le vois pas, tu ne vivras pas. C'est pas possible. Dieu doit d'abord changer ce que je vois. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois quelqu'un de broke, de galère, qui mêle toujours en train de dire, ah, la vie est dure, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Est-ce que tu te vois toujours dans l'adultère, la fornication, le vol, le mensonge? Tu te vois impatient, irritable, colérique, souillé? Que la plupart des gens échouent parce que la vision de Dieu n'est pas imprimée en eux. Ils voient autre chose, sauf Dieu. Est-ce que tu vois l'image et la ressemblance de Dieu? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu trouves naturel? Est-ce que tu te sens à l'aise avec la pensée de la sainteté, l'intégrité, la fidélité, l'humilité, la sagesse, la crainte de l'Éternel? Est-ce que tu vois ça en toi? Donc, quand tu fermes les yeux là, est-ce que tu le vois? Oh mon Dieu, silence. Ouh là là. Qu'est-ce que tu vois? Je te garantis. Si tu ne le vois pas, est-ce que tu vois en train de courir, d'achever la course et de garder la foi? Est-ce que tu te vois en train de franchir la ligne d'arrivée de ta destinée? Est-ce que tu vois l'assemblée des anges et des saints en train d'acclamer? Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois la scène? Est-ce que tu vois? Je sais, tu ne réponds pas. Pourquoi tu vois? Je sais pourquoi tu réponds pas. Là, tu vois la télévision. C'est quoi les programmes de vendredi soir maintenant sur la une? Là, c'est quoi maintenant? J'ai zappé depuis longtemps, donc c'est quoi? Non, dénoncez-vous, il n'y a pas de problème. Hein. On ne fera pas de règlement de compte en public. Que vois-tu? La plupart des gens échouent parce que soit ils ne voient rien ou soit ce qu'ils voient est flou. Et ce qu'ils vont manifester demain ne correspond pas à ce qu'ils veulent. Ce qui va se manifester, c'est pas ce que tu veux, c'est ce que tu vois. Que vois-tu? Ta vision affecte ta destination. Que vois-tu? Amen. Luc chapitre 11, versets 34 à 36. Je vous lis avec la version du Semeur. Il y a une vérité profonde que le Seigneur est en train de nous expliquer ici. Il dit, tes yeux sont comme une lampe pour ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps jouit de la lumière. Mais s'ils sont malades, tout ton corps est plongé dans l'obscurité. Fais attention à ce que ta lumière ne soit pas obscurcie. Si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune partie dans l'obscurité, il jouira pleinement de la lumière, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa clarté. Je répète, tes yeux sont comme une lampe pour ton corps. Je suis convaincu qu'ici, le Seigneur ne parle pas que des yeux physiques. Il est en train de dire que les yeux sont comme une lampe pour le corps. Et de la même manière, les yeux spirituels sont comme une lampe pour le corps spirituel, c'est-à-dire pour l'homme intérieur, pour l'esprit que je suis. Castanou Ivan, ce n'est pas un corps, c'est un esprit qui a été créé à l'image de Dieu et qui habite dans une maison qu'on appelle le corps. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Amen.
Alors cet homme intérieur, la Bible nous dit ici que les yeux spirituels sont comme une lampe pour ce corps spirituel. Si ses yeux sont en mauvais état, si tes yeux sont en bon état, tout le corps jouit de la lumière. Mais si les yeux sont malades, s'ils sont aveugles ou s'ils sont myopes ou hypermétropes, qu'importe, tout le corps spirituel est plongé dans l'obscurité. Ça veut dire que l'homme spirituel, ton esprit ne voit rien. Et quand il voit rien, il est comme ça en permanence. Le matin, le corps regarde. Le corps voit où il pose les pieds. Mais l'esprit ne voit absolument rien. Il mange sur les peaux de banane, il mange. Mais c'est une catastrophe. Et la plupart des chrétiens sont à ce stade. Ils ne voient rien. Je ne parle pas de rêver la nuit, les rêves que tu fais là, où je vais épouser un homme marié. Si c'est le pasteur, vraiment là, ça va être compliqué. Je t'avertis déjà. Je sens une colère monter en moi. Ouais, j'ai rêvé la nuit, je me suis vu avec le frère Dieu donné. Non, 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 écoute, ça là. Non, peut-être lui c'est possible. Hein. Moi, si tu rêves ça. Non, je n'ai pas dit que c'est possible pour lui. J'ai dit peut-être que c'est possible que tu rêves. Parce que moi, dès que tu as un rêve pareil, une gifle spirituelle va atterrir sur toi. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit te bat. Bah, ne pense pas des pensées comme ça à propos de mon serviteur. Ah, je suis préservé. Quelqu'un dit amen pour moi. Ok. Dis à ton voisin, que vois-tu? Vous comprenez? Quand tu comprends ça, tu comprends que la vision ne vient pas toute seule. Il faut pleurer, crier à Dieu pour que Dieu te montre. Et laissez-moi vous dire, j'ai passé du temps, je gagnais 5000 euros par mois, j'étais frustré et aller au travail, c'était un boulet. Je suis devenu pasteur. gagnant beaucoup moins que ça, mais je jubile.
Amen.
Et puis, de toutes les manières, j'ai appris à diversifier les sources de revenus. Donc, je dépends plus d'un salaire. Même si tu coupes le salaire, je vis tranquillement. Dis amen quand même.
Amen.
Réjouis-toi. Pourquoi tu commences à serrer les jambes? J'ai dit réjouis-toi. Je ne savais pas exactement quelle était la vision. La mission, je la connais. Faire des disciples, influencer la société. Ça, je connais. Le but, la mission. Mais comment est-ce que, Seigneur, tu veux que j'accomplisse cette mission? Quelles sont les particularités de mon être à moi? Quelles sont les spécificités du Ivan unique que je suis avec lesquelles je dois opérer? Parce que tu vois, si je ne comprends pas ça, je vais te voir toi. Toi, dès que tu parles comme ça, ça marche. Les gens sont touchés. Alors je vais dire, je vais parler comme lui. Tu vois? Et quand l'autre chante comme ça, je vais me dire, ah, je vais chanter comme lui. Non, je vais chanter ma propre mélodie, ma propre voix. Je te dis, je n'ai pas fait de cours de chant, mais quand je chante, souvent c'est solennel quand même. Gloire à Dieu. Voilà, c'est moi-même qui m'auto-évalue. Dans le Saint-Esprit. Mais les chants, ils m'ont dit quand même qu'ils ont besoin de moi de temps en temps. Donc, vite, amène-vous là. Hein. Attention à la rébellion. Hein. Non, non. Il n'y a rien de plus beau que d'être en train, quand tu es en train d'être la personne que Dieu t'appelait à être. Tu te regardes dans la glace, mais tu vois, mais qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois quelqu'un d'épanoui? Est-ce que tu vois quelqu'un qui vit dans la sainteté? Est-ce que c'est naturel pour toi de penser même sainteté? Est-ce que, parce que si ce n'est pas la nature de Dieu, tu n'es pas à l'aise avec la nature de Dieu. Il y a une image mentale là, à l'intérieur de la plupart d'entre nous, de chacun d'entre nous. Et la plupart, cette image a été défigurée. C'est l'image, l'image du Créateur a été défigurée, remplacée par l'image de la créature. Si bien que tu as du mal à te voir ça, tu as du mal à te voir toi. Tu vois, tu te vois toujours en train de souffrir, galère. Même le, tu penses mariage, tu vois, d'accord, mais j'ai peur qu'on me trompe, j'ai peur qu'on fasse ci. Oh, mais qu'est-ce que tu vois? Et tu dois aller devant Dieu pour dire, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, afin que je comprenne quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel. Illumine les yeux de mon cœur, afin que je comprenne quelle est, envers nous qui croyons, l'infini, grande, ça y est, j'ai un trou. La richesse de la gloire de l'héritage que tu as réservé au saints. Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 20. Je prie que Dieu, le Père de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin que vous puissiez comprendre, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous puissiez comprendre quelle est l'espérance qu'il y a dans cet appel. Quelle est l'espérance? Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Ça veut dire qu'il allume la lumière de vos yeux spirituels. Qu'il allume, qu'il vous ouvre les yeux, afin que vous puissiez découvrir quelle est la richesse de la gloire, de l'héritage qu'il a déposé à l'intérieur de vous. Waouh! Tu as tout de me dire qu'il y a une richesse, une gloire, d'héritage que tu as déposé. Waouh! Tout ça là chez moi. Waouh! Dis donc, où ça? Et Paul dit dans 2 Corinthiens 4, il dit, nous transportons cette puissance dans des vases de terre, afin que cette puissance, il dit, nous transportons ce trésor. Dis avec moi trésor. Paul dit, 2 Corinthiens 4, nous transportons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance soit attribuée, le mérite soit attribué, non pas à nous, mais à Dieu. Mais il dit, nous transportons un trésor, mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a un trésor? Il met les yeux de mon cœur. Prie comme ça tous les jours. Illumine, ouvre mes yeux. Il y a quelque chose que tu ne vois pas, qui te coûte trop cher. Ouvre mes yeux. Quand Dieu a ouvert les yeux de Gédéon, un trouillard, un lâche, un pathétique trouillard, le plus trouillard de toute la famille, sa famille la plus trouillarde de toute la tribu, sa tribu la plus trouillarde de tout le peuple d'Israël. Mais le jour où Dieu ouvre ses yeux, Moïse, le jour où Dieu ouvre ses yeux, Dieu, Moïse, va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. C'est à dire, je ne sais pas parler. Moïse dit, je n'ai pas la langue facile. Mais Moïse bégayait. Il dit, Moïse, qui a inventé la bouche? C'est pas moi. C'est pas moi qui a inventé la bouche. Va! C'est-à-dire, c'est Dieu, c'est une paix. Mais vous savez que Bénin bégayait? C'est l'un des plus grands évangélistes de notre siècle, enfin de notre ère du moins. Bénin bégayait. Mais est-ce que ce n'est pas Dieu qui a inventé la langue? Tu vois? Mais le jour où Dieu ouvre tes yeux, il ouvre tes yeux à un monde de possibilités. Le jour où Dieu ouvre tes yeux, il ouvre tes yeux à un monde d'opportunités. Dès que tu vois un problème, tu sais qu'il y a une possibilité derrière. Dès que tu vois un obstacle, tu sais qu'il y a une opportunité. Dès que tu vois un défi, tu commences à sauter, tu dis, l'Éternel est pour moi, que peut me faire un homme? Ah, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Dès que tu vois les barrières, tu dis, je suis désolé. Ouvre les yeux de mon cœur. Et c'est parce que Dieu a ouvert les yeux de Moïse que la Bible dit que Moïse, Hébreux chapitre 11, Moïse s'est tenu devant Pharaon, regardant le roi invisible. Pendant qu'il avait devant lui le roi visible, Moïse a dit, écoute, tu laisses partir le peuple. Hey, je suis le roi de la terre, tu me parles comme ça? Moïse dit, écoute petit, pas la terre. Grand, pardon, il n'a pas dit petit, il a dit dire grand. Mais quand même celui qui est au moins plus grand que toi. Donc, laisse partir le peuple. Mais ouvre les yeux. La plupart des gens n'ont pas de vision. Ils ne savent pas où ils vont. Au cours de cette série, Dieu va illuminer les yeux de ton cœur, déchirer le voile de l'ignorance. Et tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Et tu vas commencer à voir la carrière qui est devant toi. Tu vas commencer à voir la route qui est devant toi. Et quand tu vas commencer à la voir, tu vas commencer à la poursuivre. Tu vas commencer à jubiler. Parce que c'est un voyage, mais c'est un voyage qui en vaut la peine. Tu vas cesser de regarder aux autres et dire, ah, ça marche, je vais faire comme lui. Non, il y a quelque chose d'unique à l'intérieur de toi. Pensant, je ne fais rien comme personne. Je suis moi, entièrement moi. Ne même pas la peine, ne m'imite même pas, mon ami. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parler comme moi. Le sens de l'humour, là, tu vois. Non, il y a des choses... Les gens me disent par email, comment on fait pour avoir le sang? Je dis, je ne sais pas, je suis un produit unique, n'essaie pas de faire comme moi. Si tu es habitué à fermer le front, ferme le front. Dans ton style, ça ira très bien. Alléluia. Ouh, Seigneur, le temps passe vite. Mon Dieu, il ne me reste plus que 10 minutes. Ouh là là, ce n'est pas possible. Ok, numéro 3. La troisième raison pour laquelle les gens échouent, c'est la procrastination. Pour certains de vous, c'est un gros mot, ok. La procrastination, c'est la tendance, l'habitude à ne jamais prendre de décision, de devenir, de jamais prendre de décision, de ne jamais initier d'action, de toujours tout conjuguer au futur. Un jour, je serai. Un jour, je ferai. Un jour, j'aurai. Un jour, j'accomplirai. Un jour, j'arrêterai l'adultère ou la fornication. Un jour, je créerai mon entreprise. Ça fait 10 ans que tu dis ça. Il n'y a rien qui est sorti de toi. Un jour, je réussirai. Un jour, je serai guéri. Un jour, je prierai. Alors, il y a un poème qui a été écrit par rapport à la procrastination et qui dit ceci. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je ferai tellement de choses au cours des prochaines années. Mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je donnerai mon or en échange d'une somme princière. Mais qu'est-ce que j'ai donné aujourd'hui? Je bâtirai un château dans le ciel. Mais qu'est-ce que j'ai construit aujourd'hui? Il est doux de se bercer, de rêver, de désœuvrement. Mais si ce n'est pas moi qui, donc accomplira la tâche. Oui, voici la question que chaque âme doit se poser. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Un jour. Laissez-moi vous dire, l'expression un jour n'appartient pas aux 7 jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, c'est ça les jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il n'y a pas un jour dedans. Ça n'existe pas. C'est une utopie, une illusion que la plupart des gens poursuivent. Parce qu'ils remettent à demain ce qu'ils peuvent prendre, ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Ils remettent à demain la décision qu'ils peuvent prendre aujourd'hui. La plupart des gens ne réussissent pas parce qu'ils procrastinent. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas la décision de « maintenant je décide, je vais être par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, je vais être la personne que Dieu m'a appelé à être. » La quatrième raison pour laquelle les gens échouent, ça c'est une des raisons les plus redoutables, c'est la peur. La peur. Un des plus grands assassins du potentiel humain, la peur. Par elle, les hommes sont paralysés. La santé est dégradée. Personne ne te poursuit. Peur de la mer. Peur du vide. Peur du noir. Peur du rejet. Peur de l'opposition. Peur des critiques. Peur de réussir. Il y en a même qui ont peur de réussir. Peur de ne pas achever la course. Peur. La peur. Un assassin d'opportunité. La peur du rejet. Aujourd'hui, si j'y arrive, si je deviens cette personne qui resplendit, est-ce que les gens vont m'aimer? Les gens vont me rejeter? Oui, ils vont te rejeter. Je te garantis, on va te rejeter. Ce n'est pas compliqué. Tout le monde ne t'acceptera jamais dans la vie. Quelle que soit ta position, tout le monde, tu n'arriveras jamais au stade où tu fais l'unanimité. Tu auras toujours des gens qui vont te rejeter. Quelqu'un dit amen. Jésus était rejeté, qui tu es? Il était pleinement épanoui, satisfait de lui-même. Il apporte aux gens la réponse de l'humanité, les gens le rejettent. Mais toi, on va te rejeter. Le problème, ce n'est pas le rejet. Le problème, c'est que tu te rejettes toi-même. Des fois, tu te fâches avec quelqu'un parce qu'il t'a dit quelque chose. Mais en fait, ce n'est pas ça qui t'a, c'est pas ça qui t'a fâché. Ce qui t'a fâché, c'est que ce qu'il a dit, tu te le disais déjà toi-même. Il t'a dit idiot, bête. Et toi, tu te disais déjà bête. Alors, ça a réveillé quelque chose en toi. Parce que moi, tu me traites de tout ce que tu veux. Je t'assure, je n'en ai rien à faire. Oh mon ami, je sais qui je suis par la grâce de Dieu. Amen. Tu dois être libéré de la peur du rejet. La peur des critiques. Les gens vont te critiquer. Je vous ai dit la dernière fois, les réalisateurs et les acteurs sont critiqués. Les spectateurs ne sont pas critiqués, ils foutent rien. Et de toutes les manières, vous devez comprendre que la critique est le plus beau des compliments qu'un médiocre puisse faire à un bâtisseur. C'est la critique négative, c'est des injures, c'est des critiques, des calomnies. C'est la plus belle, le plus beau des compliments qu'un médiocre. Donc, quand tu as un médiocre en face de toi, il va toujours te critiquer. Et les gens qui critiquent, regarde, ils critiquent. Toi, tu as tourné un film. Pardon. Tu as tourné un film. Le gars, il va au cinéma avec son petit stylo, son papier. Il commence à casser tout ce qu'il voit. Mais il n'a rien réalisé. Il n'a pas tourné, il n'a rien réalisé. Il passe son temps à critiquer. Mais laisse-le critiquer. La plupart du temps, il ne gagne même pas le salaire que gagnent les acteurs et les réalisateurs. Amen. Et pendant qu'il est en train de critiquer l'acteur à New York, l'acteur est en train de présenter son film au Festival de Cannes. Et il est en train d'engranger des millions. Pendant ce temps, la critique dit, le film manque de ci, il manque de ça. Oh, on s'en moque, va jouer. Dis amen.
Amen.
Les critiques, c'est la mentalité des crabes. En fait, ils sous-entendent. Petit, pourquoi tu vas aller? Petit, qu'est-ce que tu veux montrer? Pourquoi tu veux rester là où tout le monde a échoué? Nous avons tous échoué depuis 1950. Reste avec nous. Vous connaissez tous la mentalité des crabes? Comme il y a toujours des nouveaux, on va peut-être le dire. Mettez des crabes dans un panier, personne ne sortira. Ne mettez pas de couvercle. Dès que tu veux sortir, les pinces des autres te prennent et te disent, reste avec nous. Chut. Échouons tous ensemble. Non, 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 la Bible dit, non, pleurons avec ceux qui pleurent. La Bible ne dit pas échouer avec ceux qui échouent. Quelqu'un dit amen. Non, mais non, non, vraiment. Si tu pleures, je vais verser une larme avec toi. Si tu pleures trop, je vais te dire, excuse-moi, il y a un temps pour tout dans la vie, il y a un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour courir. Alors, n'est-ce pas? On se voit plus tard. Sur la route de ma destinée, si tu me rejoins, on se verra là-bas. Mais je ne vais pas. Vraiment. Il y en a qui ont peur de l'opposition. Mais tu seras toujours confronté à l'opposition. Même dès que tu sors d'ici là, dès qu'il y a un peu de vent, le vent te retient. T'as pas vu? Et l'opposition partout. Donc tu seras, on va. Dès que tu décides d'être quelqu'un de bien, ceux qui ont choisi volontairement d'être des gens mauvais, ils vont te combattre. Dès que tu décides d'entreprendre quelque chose de bien, tu veux construire un orphelinat, il y a des gens qui veulent tuer les enfants. Toi, tu veux sauver, ils vont te combattre. C'est spirituel. Donc, tu ne peux pas faire l'unanimité. Et quand tu fais l'unanimité, tu es suspect. Ça veut dire que devant chaque personne qui met une casquette différente, caméléon, fais comme lui de finesse. Je suis là, je vais vous servir. Puis après, tu vas avec les autres. Non, 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 non. Sois toi. On t'aime, on ne t'aime pas. Dieu t'aime. Moi, écoutez, ce n'est pas toi qui m'aide. Tu ne m'as pas racheté, justifié, sanctifié. C'est lui qui l'a fait. C'est à lui que je vais faire plaisir. Quelqu'un dit amen. Sois délivré de la peur au nom de Jésus. La peur paralyse et tétanise les gens. La peur de se tromper. Là, il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont peur de se tromper. Peur de... Mais quand tu as peur de te tromper ou tu as peur de commettre une erreur, quelqu'un a dit la plus grosse erreur que tu puisses commettre, c'est d'avoir peur d'en commettre une. C'est pour ça que chez HP, vous savez que chez Hewlett Packard aux États-Unis, ils ont un prix annuel, un concours annuel où ils récompensent le meilleur échec de l'année. C'est-à-dire que tout le monde, il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup de chercheurs. Celui qui s'est le plus rapproché, c'est lui qui a échoué, mais dans l'échec là, il atteint quand même pas mal. Toi, il a bien progressé. On le récompense, meilleur échec de l'année. C'est pour ne pas casser l'esprit d'initiative. Quelqu'un dit amen. Moi, je trouve ça une très bonne idée. Sois débarrassé, délivré de la peur. Il y en a qui ont peur d'échouer, peur de se tromper. Ah oui, mais si je marie, que je me trompe. Si tu as peur de ça, ça veut dire que tu n'as pas confiance dans la capacité de Dieu à te préserver des mauvaises voies. Parce qu'il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Si tu as peur de te tromper, ça veut dire que tu n'as pas foi dans la capacité de Dieu à te préserver. Il y a des gens qui ont peur de tomber. Mais vous savez, quand tu es pasteur, mais tout le monde te menace. Oh, petit, beaucoup de gens ont commencé comme toi. Tu sais, aujourd'hui, la plupart sont tombés dans l'adultère. D'autres sont devenus cupides. La corruption, l'argent les a eus. Petit, les femmes, c'est terrible. Moi qui te parle, la petite, c'est terrible. Je dis, écoute-moi bien. Je ne suis pas Superman. J'ai fait un pacte avec Dieu. J'ai dit à Dieu, soit Dieu vit, je me plante. Soit tu vis en moi, je ne me planterai pas.
Amen.
J'ai foi dans ta capacité à me préserver du danger. Amen. J'ai foi dans ta capacité à faire de moi un mari fidèle.
Amen.
Pas parce que Ivan Castelnau est puissant, il est capable. Non, parce que Christ en moi n'a pas le choix. Si je tombe, Seigneur, c'est toi.
Amen.
Si je tombe. Mais quand je dis ça, moi je ne dis pas juste ça. Je dis au Seigneur, alors par conséquent, je te donne le droit de me taper, de me chiater, de me bastonner autant de fois que tu veux, parce que la folie t'a attaché au cœur de l'enfant. Alors, la verge de la correction dans les noix. Alors, Seigneur, des fois, quand tu vois que je n'écoute pas, prends les bambous, les cailloux, les barres de fer, tape comme tu veux, mais délivre-moi de moi-même, je t'en supplie. Parce que livré à moi-même, des fois, je fais trop de bêtises. Hein. Non, pas toi, toi, tu es saint, tu es... Non, il n'y a pas de problème, toi, c'est OK. Mais moi, j'ai fait un pacte avec Dieu. Voilà d'où vient mon assurance. Je sais que je ne tomberai pas. Pas parce que je suis capable, mais parce que, écoute-moi, je lui ai dit... Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec beau. Je lui ai dit, prends tout. Je crois qu'il prend tout. Donc, je ne sors pas de là en me disant, ah. J'ai quand même peur. Non, j'ai dit, Seigneur, Je n'ai pas confié mon foyer, mon mariage, mes enfants, mon ministère entre les mains d'un homme. Je les ai confiés entre tes mains. Je suis confiant dans ta capacité à me faire arriver là où je dois arriver et à me garder du danger. Je ne m'appuie pas sur moi-même. Je m'appuie sur ta puissance et sur ta force. À cause de ça, je n'échouerai pas. Sois débarrassé de la peur. La peur révèle souvent que tu n'as pas la foi. Tu as la foi pour être sauvé, mais tu n'as pas la foi dans la capacité de Dieu à accomplir ce qu'il a dit qu'il allait accomplir. Donc, pense comme ça. Va devant Dieu. Demande d'abord pardon au Seigneur. Et mets-toi devant le trône et dis, Seigneur, aide-moi. Et puis après, tu dois comprendre rapidement, je finis en 2 minutes, d'où vient la peur. La peur vient... Bon, il y a plusieurs raisons à la peur. La plupart de nos peurs remontent à l'enfance. Mais il y a une chose que je veux dire par rapport à la peur. C'est que ce sont toutes des imaginations. La Bible dit que même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et les hauteurs. Et la version anglaise dit les imaginations qui se dressent prétentieusement contre la connaissance de Christ. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. Il dit, nous renversons les imaginations. Dis avec moi imagination. C'est ça le problème, les imaginations. Imagine, nation, nation, imaginée, ou encore nation, imaginaire. Plein de films dans la tête qui te stressent, qui te font paniquer, qui te terrorisent, te neutralisent, te paralysent, alors que ce n'est même pas manifesté. C'est juste à l'intérieur, des films, des nations imaginaires. Personne ne te poursuit, mais tu fuis. Personne ne te hait, mais dès qu'on ne t'a pas dit bonjour, il ne m'aime pas, mon Dieu. Nation imaginaire, sois délivré au nom de Jésus. Alors, pour combattre la peur, challenge tes pensées. D'abord, rejette cet esprit. Parce que derrière cette pensée, il y a un esprit. La parole est esprit. Derrière cette pensée de peur, il y a un esprit qui vient t'effrayer. Rejette cette pensée. Ne l'accepte pas. Dis, je rejette cette pensée au nom de Jésus. Arrête de dire, j'ai des mauvaises pensées. Pasteur, je suis amoureux d'un homme marié. Ça révèle que tu ne contrôles pas tes pensées. Quand tu dis je, là, tu parles de qui? Lequel? Je. Il y a deux jeux en toi. Il y a le vieil homme et le nouvel homme. De qui tu parles? La plupart des gens ne savent même pas discerner qu'il y a deux personnes en eux. Ils confondent tout. Non, ce n'est pas toi, c'est ton vieil homme. Toi, tu n'es pas comme ça. Toi, tu es saint, saint, pur, intègre, fidèle, droit, juste. Toi, tu es excellent. Toi, tu resplendis le vrai toi. C'est celui-là. Dis amen.
Amen.
Challenge, ensuite rejette. Ensuite, challenge ces pensées. Demande-toi, mais ça vient d'où? Pourquoi est-ce que j'ai ce genre de pensée? N'accepte pas. Pourquoi est-ce que j'ai ce genre de pensée? C'est qui la source de ça? J'ai une pensée bizarre. Ça, c'est pas de Dieu. Quand c'est pas de Dieu, tu chasses au nom de Jésus. Et tu arrêtes d'écouter Fun Radio, de regarder TF1 le vendredi soir et le samedi soir. Et dimanche, tu viens à l'église pour te dépolluer. Et lundi soir, tu reparles encore te polluer. Arrête ça. Prends le son de la parole de Dieu. Colle à l'oreille. Tu deviens ce que tu entends. Nourris-toi de la parole en permanence. Mets ça dans la salle de bain, dans les toilettes, partout. Bam, baladeur MP3. Mais bombarde-toi de la parole de Dieu. Ça va endommager la peur que tu as à l'intérieur de toi. Rejette la peur. Et souviens-toi d'une chose, la dernière chose, c'est agir. Je rappelle-toi d'une chose, le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est l'audace d'affronter la peur que tu ressens.
Amen.
C'est ça le courage. La plupart du temps, lorsque Dieu sait que la plupart des gens ont peur. Et ce n'est pas inhumain, c'est humain. Mais refuse ça. Quelqu'un dit amen.
Amen.
Inclinons la tête et prions. Nous avons vu 4 raisons. La semaine prochaine, nous en verrons les deux dernières. Pourquoi est-ce que les gens échouent? Je déclare que ce qui était mentionné, la crise d'identité, ce qui était mentionné, la peur, la procrastination, l'absence de vision ne paralysera plus ta destinée. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ces jougs sont brisés sur ta vie dans le nom de Jésus. Au son de ma voix, tous ces jougs sont démolis maintenant dans le nom de Jésus. Que le joug de la peur sur mon frère et sur ma soeur paie. Soit brisé à jamais dans le nom puissant de Jésus. Qu'un aigle puisse sortir de cette personne. Parce que la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Littéralement dans le mot hébreu, ça veut dire ils échangent leur force. Ce n'est pas qu'ils renouvellent, c'est qu'ils échangent. Ils libèrent leur faiblesse et la puissance de Dieu rentre en eux. Voilà pourquoi tu y arriveras. Que Seigneur, cette personne qui ne voyait pas clair, soit aveugle, soit myope, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, ouvre-lui maintenant ses yeux spirituels. Mets le collier du Saint-Esprit sur ses yeux. Afin que là où il ne voyait pas, ou là où ce n'était pas clair, que cela soit clair maintenant dans le nom de Jésus. Et accorde-nous la grâce d'aller devant le trône, supplier, crier à Dieu pour que Seigneur, tu illumines les yeux de nos cœurs. Et à Seigneur, à ceux qui ne connaissent pas leur identité, dans les semaines prochaines, Seigneur, alors que nous allons continuer cette série, accorde-nous la grâce de découvrir notre identité en Christ et d'opérer, Seigneur, dans le plein héritage et de rien laisser au diable. Merci, Père. À celui qui procrastinait, accorde la grâce de réaliser que la Bible dit que c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Demain n'existe pas. Demain sera le prochain aujourd'hui. Aujourd'hui est la seule réalité qui compte. Voilà pourquoi je te dis, là où tu es, mon frère, ma soeur, tu as entendu cette parole et tu sais que tu ne connais pas Jésus-Christ et tu veux dire au Seigneur, je veux revenir à toi. Je veux devenir la personne que tu m'appelles à être. Mais nous avons vu il y a 2 semaines que la première condition, c'est de revenir en Éden, dans le jardin d'Éden, dans l'environnement de la présence et de la gloire de Dieu. Donc ce que je dis ne te sert à rien si tu ne connais même pas, si tu n'es même pas réconcilié d'abord avec Jésus-Christ par la nouvelle naissance. Si cette parole te concerne, lève-toi rapidement là où tu es, je vais prier pour toi, vite, vite, vite s'il te plaît, pour que tu reçoives le Seigneur, ne sors pas d'ici. La Bible dit, c'est aujourd'hui, si tu entends sa voix, tu sais que tu n'as pas la vie éternelle, tu n'as pas de communion avec Dieu, tu vas à l'église mais tu ne connais pas Dieu. Tu connais l'église, je ne parle pas de ça. Est-ce que tu le connais lui personnellement? As-tu l'occasion d'être réconcilié avec lui? Si cette parole te concerne, lève-toi. Si tu sais que tu n'as pas encore fait ce bon choix, je vais prier pour toi rapidement. Toutes les têtes baissées, inclinées vers le sol, en signe de révérence envers Dieu. Je demande à quelqu'un qui veut faire cette prière, qui veut revenir au Seigneur, qui dit, Seigneur, change ma vie, je veux vraiment te recevoir. Je n'ai jamais fait cette prière. Je ne parle pas de ceux qui veulent s'engager de nouveau, je parle de ceux qui veulent faire cette prière pour la première fois et dire, Seigneur, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie, que tu contrôles ma vie, je te la remets maintenant. Et alors que je te la remets, j'ai confiance dans le fait que tu vas la prendre et faire de moi la personne que tu veux que je sois. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Je vous vois là où vous êtes, je vous demande juste d'incliner la tête et vous allez répéter cette prière avec moi. Vous n'avez pas honte de ne regarder ni à gauche ni à droite, c'est une histoire personnelle entre Dieu et vous. Vous êtes nombreux à vous lever, alors je vais vous demander de répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. À partir d'aujourd'hui, je te demande pardon. Je veux revenir à toi. Je veux être la personne que tu m'as appelé à être. Seigneur, aide-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi et fais de moi une nouvelle personne. Au nom de Jésus, je renonce au diable et je reçois maintenant ton salut. À partir d'aujourd'hui, je crois que tu es le Seigneur de ma vie et le Sauveur de mon âme. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Restez debout. Restez debout. S'il vous plaît, restez debout, silencieux. Je vais prier. Père, je te recommande ces âmes. À partir d'aujourd'hui, touche-les. Garde-les. Satan, que l'Éternel te réprime. Tes œuvres dans leur vie, à partir d'aujourd'hui, nous les détruisons. Sur la base de leur déclaration, ils sont devenus enfants de Dieu. Ils ont reçu Christ dans leur vie. Tu n'as plus aucun droit de détruire et de diriger leur vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit se saisisse d'eux et les emmène sur la route de leur destinée. Au nom de Jésus, nous les aspergeons de ton sang précieux dans le nom de Jésus. Ils sont bénis de la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.